nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
En gouffre. Et la voiture démarre. La dame en noir demande à Julien, je vous ramène chez vous. Julien lui demande, qui êtes-vous? Elle lui répond, je vous aime et votre ami vous est précieux. Vous êtes ami de Gilbert? Un vrai ami. Il lui demande, mais qui êtes-vous? Pourquoi me protégez-vous? Elle lui dit, je suis une femme qui est là pour vous protéger. Pourquoi? Posez pas tant de questions. Moi, est-ce que je vous en pose? J'accepte ce que vous faites et répare vos erreurs. Il ne faut pas sortir la nuit seule. Vous n'avez pas que des amis. Heureusement, parce que la vie serait monotone et vous n'auriez pas besoin de moi. Julien lui demande, et pas me dire pourquoi vous protégez Gilbert? Et lui répond, parce qu'il a besoin d'être protégé. Je vous ramène chez vous. Oui. Vous savez pourquoi j'ai été attaqué ce soir? Elle lui dit, parce que vous êtes l'ami de Gilbert. Et que lorsqu'on est l'ami de Gilbert, on est souvent en danger. Gilbert l'est aussi. C'est comme ça. Et nous aidons l'ami de Gilbert. Vous êtes le seul vrai ami. Nous sommes arrivés. La voiture va s'arrêter devant l'immeuble où il habite. Thank you. Merci. Elle lui dit, bonne nuit. Et il sort de voiture. Il entre chez lui. La voiture ne part qu'une fois qu'il est rentré chez lui. Le lendemain matin, lorsqu'il voit Gilbert, il lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Et je me demande qui est cette femme. Gilbert lui dit, moi non plus je ne sais pas qui elle est. Julien lui demande, tu sais pourquoi elle te protège? Non, mais je sens qu'elle me protège. Je la sens. Je la sens près de moi. Un jour, Maurice reçoit une lettre du maire de Lyon qui désire faire un musée de la maison des Hautebord. Il lui demande, c'est de présider à la rénovation payée par la municipalité. Maurice en parle à ses bras droits et à Harold. Il dit, il faut accepter, ça nous fera une très belle publicité. En même temps, nous ferons un travail artistique comme la construction d'un musée où notre nom sera inscrit sur la maison. Ce sera très bon pour nous. Maurice lui dit, bien, je vais écrire au maire que son projet nous intéresse et nous discutons du prix. Harold réfléchit et lui dit, ce serait bien, c'est que pour notre image de marque, de faire ce travail gratuitement. Maurice lui dit, oui, mais elle est frais. Harold lui dit, ça vous coûtera à guère plus cher que de faire de la pub. Il dit, bien, bien d'accord, mais à condition qu'on en parle et qu'on marque sur la maison, rénovée par Franblanc, etc. Harold lui dit, très bien, monsieur. Une demi-heure plus tard, Harold est dans le bureau de Judith et lui dit « Rénover la maison des Hautebord. » Elle lui dit « Il va falloir s'y ouvrir l'œil. Je vais prévenir. » Bon.
Maurice et le maire de Lyon ont pris rendez-vous pour discuter de la rénovation de cette maison. Le rendez-vous aura lieu dans l'hôtel de ville de Lyon. Maurice va à Lyon en avion privé. Son avion privé va atterrir à l'aéroport de Saint-Olas. Puis, de l'aéroport, une voiture le mènera à Lyon. Arrivé à Lyon, il voit cette ville délabrée, morte à cause des guerres entre différents groupes politico-anarchistes et autres. Maurice est mené dans le bureau du maire. On frappe à la porte et on fait entrer. Le maire est debout. C'est un homme petit, gros, cheveux grisonnants, costume marine, il a dans les 60 ans. Son bureau est une grande pièce qui a un coin salon meublé Louis XV. Lorsque Maurice entre, le maire s'approche de lui et lui dit « Je vous remercie d'être venu ». Maurice lui dit « C'est moi qui vous remercie d'avoir fait appel à notre société pour ce travail que nous aimons et que ça nous honore. » Le maire lui dit « C'est normal, vous êtes les seuls à pouvoir mener à bien cette œuvre. Allons nous asseoir. » Il le met dans un coin du salon. Il le fait asseoir dans un fauteuil. Lui prend celui qui est en face de lui et lui demande « Vous désirez boire quelque chose ?» Maurice lui dit « Oui, merci. » Le maire demande « Un cognac ?»« Oui. » Le maire appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Le maire lui dit « Nous avons cette idée, c'est de faire un musée de la maison des Hauteurs-Bords parce que ces gens font partie du patrimoine de l'humanité. » Nous voudrions, c'est que ce musée ne ressemble pas à un musée, mais que l'on ait l'impression
c'est d'entrer chez eux, qu'ils soient toujours là. Pas de vitrine, de plaque, de chaîne, juste un décor de leur vie. Avoir leur bibelot, leurs meubles, leurs vêtements. Le jardin sera refait comme il était avant leur départ. Il y aura au sol une salle où on pourra entendre leur voix dite dans l'émission de l'écran radiophonique. Rien de plus. Pas de vente de souvenirs de magasins quelconques. Il faut s'y garder le bon goût de ces gens-là. Frappe à la porte. Entrez, c'est le domestique, le maire lui dit. Apportez-nous du cognac. Merci. Le domestique se retire. Le maire lui dit. Nous avons prévu un budget de... Maurice lui dit. J'ai décidé, c'est de faire gratuitement ce travail. Le maire lui dit, tout travail mérite un salaire. Maurice lui dit, nous demandons alors une plaque disant que c'est nous qui avons exécuté ce travail. Le maire lui dit, très bien. Frappe à la porte. Entrez, entre domestique pour les boissons. Il les sert. Merci. Merci. Et les quitte. Puis, ils ont discuté technique, date de début des travaux, remise des clés, sécurité, personnel. Puis le maire l'a invité à déjeuner. Et ils sont allés voir la maison des Hautes-Bords. La maison se trouve en dehors de la ville, en pleine campagne. Elle ne se trouve pas dans la commune de Lyon, mais fait partie du Grand Lyon. Et on peut dire que la maison appartient à la ville de Lyon. Ils y vont avec la voiture du maire. La maison se trouve en rase campagne, au fond d'un grand parc, plutôt même d'un grand domaine, entouré d'un haut mur. On y entre par un portail à double porte en fer qui est à demi rouillé. Sont de voiture pour aller ouvrir le portail. Pour que le portail est ouvert, il entre dans la voiture. et la met en route. Ils entrent dans le parc, suivent un chemin de gravier qui mène jusqu'à la maison. Le parc et le jardin sont faits d'arbres centenaires, de plantes rares, en friche. Les herbes sont hautes, il y a des feuilles mortes, des branches mortes, les haies n'ont pas été taillées, etc. Le lac est plein de saleté. Il n'y a plus de signes. Les pauvres sont morts depuis longtemps. On les avait oubliés dans le déménagement. La maison, la façade, est bien défraîchie. Les volets rouillés. Le perron, le sol, des dalles, des disjointes. Il y a de la mousse. Sortent de voiture et le maire va ouvrir la maison. Il y a plein de poussière, de toiles d'araignée, ça sent l'humidité, des papiers à terre. La tapisserie a vieilli. Les meubles sont restés, mais sont sans lit. Il y a des gouttières au plafond. Tout est laissé comme ça a été laissé. Il faut nettoyer, rafraîchir, boucher les fentes au mur, les gouttières. Le maire lui dit, vous reprendrez les mêmes couleurs que les mêmes tapisseries. Ne rien changer. À l'agencement. Puis, ils ont fait le tour de la maison, de haut jusqu'en bas. Visité tout. Ouvert les placards, tiroirs. Il y reste quelques petites choses, comme de vieilles robes de Madame de Hautebord, une montre, des livres, bibelot, etc. L'intérieur, la façade sera refaite et le toit aussi. Dans les caves, on fera des salles d'écoute. Après la visite, Maurice est retourné à la mairie pour signer son contrat. Les travaux commenceront dans un mois. Un architecte viendra faire les plans de la maison. Judith prévient l'homme en noir qui est dans la maison. Lui dit, c'est une bonne chose que ce soit lui qui s'occupe de la réhabilitation. Ça crée une continuité. Comme vous voyez, tout naturellement, tout rentre dans l'ordre des choses, des lois. Une nuit, une voiture s'est arrêtée devant la propriété des Hautebord. En sort un homme, grand, mince, habillé d'un costume noir. Il porte une casquette. Il va ouvrir le portail avec une clé. La clé a été prise dans le bureau de Maurice, qui lui seront remises. C'est la clé de la propriété. Il est entré dans le parc, il suit le parc. Et entre dans la maison. Il va faire toutes les pièces, photographier toute la maison, prendre des échantillons de poussière, de vêtements, qu'il met dans des sacs hermétiques en plastique. Il passe au plein fin toute la maison pour prendre les empreintes et tout ce qui reste de cette famille. Toutes leurs traces qu'ils ont laissées sur leurs objets. Il a trouvé des cheveux, un savon usagé abandonné, un gant, peigne, tout est pris pour conserver les traces, les bouts de peau et mettre, et même surtout de l'ADN. L'ADN des Hautebord est très important et précieux. La moindre trace d'ADN sera conserver le moindre bout de peau, on ne sait jamais, ça peut servir pour reconstruire la personne, les personnes. Une fois que l'homme a passé au peine fin à la maison, qu'il avait à prendre ce qu'il avait à prendre, il s'en retourne avec des échantillons, des bouts de peau, des objets, vêtements et photographies. arrivée à Paris, va déposer tout ça dans un laboratoire jeune touriquin. Il va au siège remettre les clés dans le bureau de Maurice.
Il entre dans le bureau. Dépose les clés dans le tiroir et s'en retourne. Personne ne saura rien. La rénovation va se faire. La maison va être remise à neuf, mais Maurice ne veut pas qu'elle ait l'air d'une maison repeinte, mais qu'elle garde son cachet de vieille maison, pas repeinte de neuf. Pour le jardin aussi, il gardera son côté vieillot, jardin centenaire, pas fraîchement refait. Vous montrez que cette propriété est une vieille propriété qui a été toujours habité. Les jours passent, Gilbert continue à aider son père. Il s'occupe pas de la rénovation des hautes bords, mais d'autres travaux. Après son travail, il se détend en écrivant des petites histoires. Et en fin de semaine, il revoit Nathalie. le laboratoire Jeune Tout Pontois a enfin fabriqué pour l'armée française un satellite qui détruit toutes les ondes radio. Avant, elle capte toutes les informations qui pourraient se servir, toutes les informations qui passent par onde, un ordinateur, un super cerveau, comme on dit, à terre, reçoit ces informations, les enregistre et les stocke par catégorie. Le projet a été déjà présenté, mais pas fabriqué. Maintenant, il est fabriqué et livré au gouvernement français du contrôle franc-blanc, comme c'était prévu. Les autres pays qui la prennent protestent et disent que la France peut faire chanter le monde et que c'est une atteinte aux libertés et à l'indépendance des pays. La France se dit que c'est pour défendre les droits de l'homme. En disant cela, il a fait taire toutes les contestataires. France dit que c'est pour contrôler, pour voir si les droits de l'homme sont bien respectés dans le monde. Malgré les réticences du monde, elle lance son satellite. Les Américains disent qu'ils vont lancer un satellite plus puissant et plus grand que la France. Mais c'était qu'un projet. Maintenant, chaque fois qu'il y a un conflit dans un pays, ou qu'un pays envahit un autre, on demande l'aide de la France, qui aide moyennant finance. La France fait arrêter le conflit en bloquant les informations du ou des pays. Cela bloque la guerre et les affaires. Plus d'informations après le traité de paix qu'on fait avec la France qui demande la rétablir les ongles de l'argent puis de prendre le monopole des informations dans le ou les pays. S'ils refusent, la France continue à tout bloquer. À la fin, on s'aperçoit que ce système pas cher, pratique et sans destruction humaine et naturelle n'est pas si mal que ça. Donc, on laisse la France faire la police dans le monde avec ce genre de choses. Le satellite est privé, il appartient au groupe franc-blanc et c'est le groupe qui le fait marcher, qui reçoit les informations et les stocke. Le système est loué au gouvernement français. Les jours passent. Comme Gilbert est le fils du PDG, le plus puissant du monde, est devenu le fils à marier, le plus en vue du monde. Pour point de vue, voici match, Jour de France, VSD. Tous les arrachent. Ils ne peuvent pas faire un geste, un pas, sans qu'on le mitraille. Chaque fois qu'il sort de son appartement, il y a des tas de journalistes et de photographes. Il est suivi de partout. TF1 et N6 veulent aussi pour ses émissions. Lui refuse tout. Tout ça, et veut tout ignorer. Il est appelé le plus beau garçon du monde et le plus riche. On oublie volontairement Nathalie parce qu'elle n'est pas assez médiatisée. Nathalie est furieuse. Elle lui dit « J'en ai assez qu'on te fiance toutes les semaines. » Il lui répond « Mais c'est pas grave, du moment que je ne me marie pas. » Et puis, il ne dépasse pas une certaine limite. Du moment qu'il ne dépasse pas une certaine limite, je m'en fiche. Elle lui dit « Bien sûr, toi tu es fière. Tu es fière de ça. » Il lui dit, non, je m'en fiche complètement. Mais moi, ce que j'aime, c'est la tranquillité. Mais du moment que ça ne me gêne pas. La mère de Nathalie, Anne Poncet, lui montre à sa fille les piles d'hebdomadaires et lui dit « Laisse tomber ce coureur !» Nathalie lui dit « Ce n'est pas un coureur, c'est un journaliste qui invente des choses. » La mère lui dit « Il n'invente pas, ce sont des faits réels, laisse tomber, il ne tient pas à toi. » Nathalie lui dit, « Il tient à moi, et moi je tiens à lui. Vous seriez bien contente hein, que je laisse tomber. Mais non, je ne le ferai pas. » Lorsque Gilbert va voir son père, il lui dit « C'est bien que l'on parle de toi. Continue à avoir des aventures. Ça me fait de la pub gratuite. » Gilbert lui dit « Mais je n'ai pas d'aventure. Ce sont des inventions des journalistes. » Son père lui dit « Qu'importe du moment que l'on parle de toi. » Si est fier de son fils. « Mon beau garçon, comme tu as du succès !» Julien hausse ses épaules. Je trouve ça tout à fait idiot. Les Bourbons font savoir par voie de presse, par l'intermédiaire de Monsieur de Janjus, qui est l'un de leurs amis, qu'ils verraient d'un très bon œil qu'ils entrent dans leur famille et qu'on lui donnerait un titre. Jean-Jus dit à Gilbert aussi,
Le pape n'est pas contre.
Ribéry lui dit, ils sont sûrement ruinés. Ils veulent faire comme le prince de Monaco avec Grace Kelly. Nous, non. Vous leur direz que j'ai pas du tout l'intention de remplir les caisses de leurs altesses.
Puis Jean-Jules lui dit, nous ne pouvons pas dire des choses pareilles à leur altesse.
Et pourquoi pas, eux me veulent pour mon compte en banque. Personne ne les veut, ils sont ruinés. Et puis, je me moque de tout ça, moi. Vous savez, je suis loin de toutes ces choses. Moi, ce que j'aime, c'est la vie calme. Je souhaite que l'on m'oublie.
Puis Jean-Jules lui dit, c'est impossible, tant que vous ne serez pas marié.
Gilbert lui dit, et une fois que je le serai, on fera tout pour me faire divorcer. Tout ça, c'est de la foutaise.
Tout ça est enregistré sur satellite. Par satellite. Les jours passent. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.